France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La France insoumise plus que jamais dans la tourmente après que deux collaborateurs d'un député LFI ont été placés en garde à vue avec 9 autres suspects dans l'enquête sur la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenque. De quoi nous interroger, on le verra, sur la radicalisation aujourd'hui en politique. À suivre également la réforme constitutionnelle sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, à nouveau dans l'impasse. On s'intéressera au sort désormais plus que fragile de la cristallisation d'Arc, de même qu'à l'avenir incertain du projet d'avion de combat du futur franco-allemand SCAF. Enfin, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde, on tâchera avec notre invité de décrypter le nouveau positionnement diplomatique de New Delhi. Ils sont désormais 11 suspects à avoir été interpellés depuis hier dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune militant d'extrême droite Quentin Derenque. Le magistrat s'est refusé pour l'instant à préciser leur profil, mais a priori tous seraient proches de la mouvance dite d'ultra-gauche, dont un assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, fondateur du groupe antifasciste La Jeune Garde. Alors depuis le lynchage à mort la semaine dernière du militant identitaire, l'horreur et le dégoût ont vite fait de ranimer le venin mortel de l'exacerbation des débats politiques qui de plus en plus souvent vient, sinon instrumentaliser, à tout le moins alimenter tous les excès où chacun s'applique à jeter le discrédit sur l'autre pour servir sa cause et détruire le camp d'en face. Quoi qu'il en soit, et quand bien même l'enquête pour identifier les vrais coupables est donc toujours en cours, d'ores et déjà, plusieurs personnalités politiques pointent désormais du doigt la seule responsabilité de la gauche radicale et de la France insoumise dans ce drame. Les filles dont le siège du parti à Paris a d'ailleurs été victime ce matin d'une alerte à la bombe. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Voilà plusieurs mois en réalité que le climat politique a tendance ainsi à se radicaliser, sauf qu'à un mois des élections municipales, eh bien cette orientation, Stéphane, prend forcément aujourd'hui une dimension électorale.
Oui, il est renvoyé à la France Insoumise, sa proximité affichée avec la Jeune Garde, dont plusieurs des personnes interpellées et placées en garde à vue étaient des membres jusqu'à la dissolution des membres de la Jeune Garde, donc jusqu'à la dissolution du mouvement l'été dernier, et dont le député, vous l'avez dit, Raphaël Arnaud, est l'un des fondateurs. À travers ce groupuscule, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est accusé de soutenir et de cautionner la violence comme une forme possible de l'action politique. LFI est donc renvoyé par ses adversaires à une radicalité et une qualification de mouvement d'extrême-gauche. Quand Laurent Wauquiez, Jordan Bardella ou Gérald Darmanin déclarent que l'extrême-gauche tue, ils font directement référence au slogan des insoumis employé lors des bavures policières « La police tue » et ce faisant, ils situent et caractérisent les insoumis à l'extrême-gauche du champ politique. Ça aura vraisemblablement effectivement des conséquences à 3 semaines des élections municipales, même si à ce stade, elles sont difficilement mesurables. Ces conséquences potentielles sont de deux natures. D'abord, du côté des électeurs, on peut imaginer qu'ils seront moins nombreux à voter pour les candidats insoumis, dont les résultats au soir du premier tour pourraient être bien inférieurs à ce qu'ils pouvaient espérer avant le début de cette affaire. Et puis, il y aura aussi des conséquences sur de potentielles alliances en vue du second tour des municipales. Les insoumis risquent d'être considérés par un certain nombre de candidats étiquetés à gauche comme infréquentables. Cette affaire est donc en passe de marginaliser un peu plus encore le mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui mise beaucoup sur le scrutin des 15 et 22 mars prochains. Son espoir est d'une part de faire élire de nombreux conseillers municipaux susceptibles de devenir de grands électeurs pour les élections sénatoriales du mois de septembre. LFI ambitionne de constituer un groupe au Sénat. Et puis d'autre part, l'espoir était d'affaiblir le Parti Socialiste encore très implanté localement dans une lutte pour attirer le vote utile à gauche. Les conséquences de cette affaire par conséquent pourraient être importantes et fortement préjudiciables à une quatrième candidature à la présidentielle que prépare Jean-Luc Mélenchon.
Merci Stéphane Robert.
C'est une nouvelle illustration de l'instabilité politique à l'œuvre, en particulier du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée.
Le Parti Socialiste ne votera pas le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Il l'a annoncé dans une tribune parue hier dans les colonnes du journal Le Monde. Le PS, dont les voix dans l'hémicycle sont aujourd'hui indispensables pour que le texte soit adopté, estime que l'accord signé l'été dernier entre le gouvernement et les forces politiques locales, complété au mois de janvier, ne ramènera pas la sérénité dans l'archipel dès lors qu'il a été refusé par le principal mouvement indépendantiste FLNKS. Le projet de loi constitutionnelle est lourd de menaces et de dangers, écrivent notamment les parlementaires socialistes. Alors forcément, à Nouméa, quand certains se disent soulagés par cette décision, d'autres ne décolèrent pas. Et ce, alors même que les élections sont censées se tenir avant l'été. Les précisions de notre correspondante Charlotte Manvi.
Le FLNKS, mais aussi des personnalités non indépendantistes du territoire, ont mené pendant des semaines un intense lobbying pour convaincre les parlementaires socialistes qu'un accord sans consensus plongerait au tout tard la Nouvelle-Calédonie dans la tourmente. Le mouvement indépendantiste a toutefois sobrement réagi hier, se disant simplement prêt à engager un dialogue consensuel, tandis que de l'autre côté de l'échiquier politique, le député non indépendantiste Nicolas Metzdorf ne cache pas sa colère. Nous avons fait des concessions énormes et les socialistes continuent de soutenir l'extrême droite locale, à savoir le FLNKS. Quelle lâcheté immense, peut-on lire sur son compte X. Raison de la colère, sans validation du nouveau statut par le Parlement, pas de nouveau report des élections provinciales et pas d'ouverture du corps électoral. Nœud de discorde qui oppose depuis 20 ans indépendantistes et non-indépendantistes et dont la dernière tentative de modification avait conduit aux violences de 2024. Sauf rebondissement, les élections devront donc avoir lieu en juin avec un corps électoral restreint. Pour nombre de Calédoniens, il était temps, ouverture du corps électoral ou non, ces élections auraient déjà dû avoir lieu il y a 2 ans.
Les candidats à la reprise du fabricant de produits en verre Arc en redressement judiciaire avaient jusqu'à hier soir à minuit pour déposer leur dossier au tribunal de commerce. Or, juste avant le gong final, l'un des deux repreneurs potentiels s'est retiré. L'ancien président de l'entreprise, Patrick Puy, avait présenté un plan de relance sans suppression de poste, mais demandait un report des échéances pour le finaliser. Ce sera finalement sans lui. Il ne reste donc plus qu'un seul candidat en lice. Timothée Durand, le petit-fils de l'un des dirigeants emblématiques du groupe, mais dont l'offre prévoit, elle, 300 licenciements. Comment les syndicats ont-ils réagi hier soir à cette nouvelle? Élément de réponse avec Lola Salaman.
Quand Vincent Fenard, délégué syndical CFDT, a appris le retrait de Patrick Puy, il n'a pas été surpris. Il ne croyait pas du tout en ce projet de reprise, trop beau pour être vrai.
Il était venu la semaine dernière nous présenter son intention de reprise, donc il est arrivé déjà sans document, sans rien. Il n'avait aucun business plan, aucun financement. Il nous parlait toujours de chômage partiel pour garder tous les salariés. Il a vendu du rêve à tout le monde, mais c'est tout. Il n'y avait absolument rien du tout de concret.
Frédéric Speck de la CGT est plus mitigé face à cette nouvelle. Pour lui, l'idée de relancer Arc avec de nouveaux investissements était intéressante.
Il proposait une vraie rupture, quoi. Il avait une vraie volonté de relance. Ce que malheureusement on ne retrouve pas vraiment dans le plan de Timothée Durand, qui est beaucoup, beaucoup plus prudent. Si on veut éviter un gros plan de licenciement tel qu'il est prévu aujourd'hui, il faut absolument que ça passe par une volonté de reprendre des volumes plus importants.
Déception aussi du côté de Corinne Guénès de la CFE-CGC. Une seule offre de reprise complique la suite des négociations, selon elle.
Ce repreneur aujourd'hui, il va se sentir tranquille, sans concurrent, donc ça va être hyper compliqué d'aller négocier avec lui. Ça va être aux organisations syndicales d'aller challenger M. Durand sur différents points, notamment sa stratégie commerciale et marketing, et surtout le nombre de licenciements qu'il avait envisagé de faire.
Timothée Durand a à partir de maintenant jusqu'au 5 mars pour finaliser et améliorer son offre.
Et je précise que la décision finale du tribunal de commerce est attendue le 10 mars prochain.
Midi et 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Il était présenté comme l'un des porte-étendards de la coopération entre la France et l'Allemagne en matière de défense, le symbole même de la puissance aérienne sur le vieux continent à partir de 2040, sauf que le SCAF, l'avion de combat du futur, un projet lancé en 2017 pour un montant estimé à 100 milliards d'euros, risque bien de ne jamais voir le jour. Pourquoi? La liste des différents franco-allemands est relativement conséquente. En particulier, Berlin s'agace de l'autonomie réclamée par l'avionneur d'assaut dans son rôle de maître d'œuvre industriel. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin, je le disais, a priori rien ne va plus et ce n'est certainement pas l'interview ce matin du chancelier Friedrich Merz qui devrait, Sébastien, arranger les choses.
Ah oui, cela ressemble fort au dernier clou planté dans le cercueil du SCAF. Alors cela fait un moment que le projet piétine. France et Allemagne ne sont pas d'accord sur la répartition des tâches entre les industriels. Vous l'avez rappelé, Dassault voudrait le rôle de leader. L'Allemagne et Airbus plaident pour un partage plus équitable. Divergence de vue aussi sur le profil de l'avion. Constat ce matin du chancelier Friedrich Merz interrogé dans le podcast Marc Wechsel.
Les Français ont besoin, dans la prochaine génération d'avions de combat, d'un avion capable de transporter des armes nucléaires et d'opérer à partir d'un porte-avions. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin actuellement dans l'armée allemande.
Une déclaration qui illustre le coup de froid entre Paris et Berlin. L'Allemagne reproche à la France de ne pas investir suffisamment dans la défense et d'avoir voulu bloquer l'accord commercial avec le Mercosur. Au sujet du SCAF, le chancelier évoque une alternative, la construction de 2 avions, un français, un allemand.
La France souhaite n'en construire qu'un seul et l'adapter pratiquement aux spécifications dont elle a besoin. Mais encore une fois, ce n'est pas celui dont nous avons besoin. Il ne s'agit donc pas d'un différend politique, mais d'un véritable problème au niveau du profil d'exigence. Et si nous ne parvenons pas à le résoudre, nous ne pourrons pas maintenir le projet.
Le chancelier indique que Berlin pourrait faire appel à d'autres partenaires comme la Suède. Selon la presse allemande, Friedrich Merz a d'ailleurs déjà informé ses ministres qu'il n'y aurait plus d'avions communs. Des propos bien différents de ceux d'Emmanuel Macron qui ce matin, depuis New Delhi, fait savoir qu'il reste engagé pour le succès du SCAF.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin.
C'est un procès inédit qui s'est ouvert ce matin en Pologne.
Un évêque qui est jugé pour avoir couvert des actes de pédocriminalité commis par des prêtres de son diocèse. Il est le premier haut dignitaire de l'église catholique polonaise à être ainsi poursuivi au pénal pour ne pas avoir informé l'autorité judiciaire d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé. Rappelons que depuis des années déjà, associations et victimes réclament la constitution d'une commission d'enquête indépendante sur ces scandales dans la patrie de l'ancien souverain pontife Jean-Paul II.
Quand les menaces d'abus sexuels sur les enfants ne cessent de s'aggraver.
C'est ce qui ressort d'un rapport glaçant publié au Royaume-Uni sur la lutte contre la pédopornographie en ligne. Celle-ci a atteint un niveau critique avec 1000 arrestations par mois, un chiffre qui a doublé en 3 ans. Les précisions depuis Londres de Gaëlle Joly.
Selon le directeur de l'agence de lutte contre la criminalité, c'est parce que les enfants sont de plus en plus dépendants d'Internet qu'ils deviennent la cible facile des pédocriminels. Des pédocriminels qui se retrouvent entre eux sur des plateformes grâce à des algorithmes, partagent leurs penchants, coordonnent leurs activités, s'encouragent mutuellement sur le dark web et utilisent la toile, et notamment des applications grand public pour identifier et abuser d'enfants vulnérables. D'après les policiers, la menace s'est diversifiée, les comportements se sont radicalisés avec des demandes de contenu de plus en plus sadique. Des délinquants, par exemple, ont été arrêtés pour avoir commandé pour 25 euros la diffusion en direct d'abus sexuels sur des enfants. La police a annoncé arrêter en moyenne 1000 à 1200 personnes chaque mois, contre 500 par mois il y a 3 ans. Les policiers britanniques affirment être débordés et appellent les géants du web à mieux réglementer leur plateforme pour protéger les enfants.
La malédiction présidentielle au Pérou.
Après la destitution éclair la veille du chef de l'État par intérim visé par 2 enquêtes pour trafic d'influence, les parlementaires sont appelés aujourd'hui à lui trouver un successeur parmi 4 candidats. Et ce, à 2 mois seulement de la véritable élection présidentielle, soit l'énième épisode en réalité d'une instabilité institutionnelle chronique qui mine le pays andin depuis 2016. Le tout sur fond de rapports de force durables entre, d'un côté, donc un parlement dominant et de l'autre, un exécutif fragilisé, qui plus est en absence de véritable consensus politique. C'est ainsi que ces 10 dernières années, pas moins de 7 chefs d'État se sont succédés, dont un seul a mené à terme son mandat intérimaire. Tous les autres ayant été soit destitués, soit contraints à démissionner. Un vol en provenance d'Espagne est arrivé hier soir au Venezuela, soit le tout premier en provenance d'Europe depuis la capture par les États-Unis du président Nicolas Maduro. En revanche, la loi d'amnistie devant conduire à libérer tous les prisonniers politiques se fait, elle, toujours attendre, reportée la semaine dernière. Son examen pourrait avoir lieu demain. Alors, dans le grand désordre mondial, rythmé notamment par les coups de boutoir de l'imprévisible président américain, Paris New Delhi continue d'afficher la bonne santé de leur partenariat commercial et stratégique. 2e et avant-dernier jour de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Inde ce mercredi, l'occasion de s'intéresser au positionnement diplomatique aujourd'hui du Premier ministre indien Narendra Modi. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Charlotte Thomas, chercheuse associée au programme Asie de l'IRIS. Bonjour madame.
Bonjour.
Hier soir, Emmanuel Macron s'est félicité d'une phase d'accélération que connaît la relation franco-indienne. Le président insiste sur ce qu'elle constitue, je cite, une réponse aux mutations de l'ordre international. Comment est-ce que vous comprenez ce satisfecit du chef de l'État?
Je suis assez nuancée en fait, parce que il faut quand même rappeler que l'ordre, enfin ce qu'on appelle l'ordre international, pardon, donc en fait c'est le droit international qui est censé régir les relations entre les différents pays. Et l'Inde elle-même, l'année dernière, s'est rendue coupable de violation de ce droit international en déclenchant une guerre illégale contre le Pakistan, puisque l'implication du Pakistan dans les attentats qu'a subi l'Inde n'est toujours pas avérée d'une part, et que d'autre part, dans le cadre de ce conflit, elle a préempté une ressource vitale qui est l'eau, et ça contrevient au droit international. Donc, il est vrai que Narendra Modi, ayant essuyé les plâtres des essais d'une relation bilatérale très forte et très privilégiée avec Donald Trump, essaye maintenant de réinvestir d'autres instances de façon tout à fait pragmatique, et qu'à cet égard, ça doit être un appui si la France veut elle aussi défendre le droit international. Mais il faut quand même rester nuancé, de la même façon que le droit international, la France ne met pas toujours tout elle-même aussi en œuvre pour le respect de ce même droit.
Déjà, lors de la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde, c'était le mois dernier, les déclarations des dirigeants européens laissaient entendre que ce partenariat venait donc en quelque sorte compenser les défections récentes des États-Unis vis-à-vis de ses partenaires historiques. Est-ce que l'Inde constitue aujourd'hui un acteur effectivement de plus en plus incontournable sur la scène internationale?
Alors oui, puisque en plus c'est le vœu de toute façon, c'est le souhait que Narendra Modi a fait. C'est le président depuis qu'il est élu, ça fait une dizaine d'années maintenant, depuis et 3 mandats. C'est le président qui a fait le plus de déplacements à l'étranger, 98 il me semble, et que les Indiens ont vocation à être une puissance internationale et que par ailleurs, dans certaines instances, comme au sein des BRICS par exemple, les États-Unis essayent aussi d'utiliser les Indiens comme rempart entre guillemets contre l'Inde, enfin contre la Chine et la Russie. Donc l'Inde jouit de cette posture dans laquelle on la met également, mais il y a aussi là beaucoup de nuances. Par exemple, l'Inde est vécue comme une puissance très oppressante et très hégémonique dans son voisinage direct à sud-asiatique. Donc ça, c'est aussi un manque quoi pour avoir une voix internationale. Et puis il y a une projection de puissance. La projection de puissance dont est capable l'Inde n'a rien à voir avec celle ni chinoise, ni états-unienne.
Pour les pays européens, là encore, est-ce que l'Inde est un partenaire plus fiable justement que la Chine ou les États-Unis? Et à l'inverse, quel regard porte la puissance indienne sur l'Union européenne?
Alors, je comprends tout à fait votre question sur le thème de fiabilité, qui est quelque chose qui revient beaucoup. Moi, étant politiste, j'essaye de m'extraire de cette notion que je trouve très énormative et morale, puisque comme vous venez de me le mentionner, les États-Unis étaient considérés comme partenaires fiables, et je pense que c'est à questionner. L'Inde est un partenaire pragmatique qui défendra en premier lieu, ses intérêts nationaux. J'illustre mon propos tout de suite. Quand nous, on se réjouit des marchés qui vont s'ouvrir en Inde, il faut savoir que les Indiens ont à cœur le transfert de technologies. Donc eux, ce qui va les intéresser, c'est de récupérer ces technologies. C'est pas de devenir un hub, comme je l'ai lu dans les déclarations mutuelles et que la France se réjouit de ça. Non, c'est de produire sur leur sol, ce qui est très bien pour eux. Mais du coup, c'est en contradiction avec ce que nous, on projette sur eux, que ce soit nous, la France, ou nous, l'Union européenne, de la même façon que dans l'accord de libre échange que vous mentionnez. Il y a également une clause de mobilité pour les travailleurs qui est à ce stade très vague. Mais est-ce que cela implique que des travailleurs détachés vont venir en France et en Union européenne? C'est une question et je pense que ça n'ira pas strictement dans les intérêts de la main-d'œuvre française.
On parle souvent de multi-alignement pour évoquer donc la position du Premier ministre Narendra Modi sur la scène internationale. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, le multi-alignement, c'est très question très intéressante, ce n'est pas le non-alignement de l'après-guerre. Le non-alignement était une position des pays des Suds pour promouvoir une troisième voie entre les États-Unis d'une part et l'URSS d'autre part. Le multi-alignement, ce n'est pas ça, ce n'a pas vocation à présenter une troisième ou une quatrième voie. C'est juste, en fait, pouvoir s'insérer dans la mondialisation néolibérale telle qu'elle se déploie aujourd'hui et avoir son rôle à égalité sans être pris dans des rôles, sans être contraint plutôt par des jeux d'alliance qui corsettent trop aujourd'hui, par exemple, notre alliance entre guillemets avec les États-Unis nous empêche aussi de nous autonomiser strictement sur le plan de la défense, puisque par exemple les Allemands dépendent énormément de l'industrie de défense états-unienne. Les Indiens, eux, ont toujours eu vocation à s'extraire de ça. Donc, ils peuvent faire des partenariats avec la Russie, avec la Chine. Je tiens vraiment à mentionner que le premier partenaire commercial de l'Inde en Asie du Sud, c'est la Chine. Ceci pour mettre un peu à bas les récits d'opposition terme à terme entre les deux pays, enfin entre l'Inde et la Chine. Et l'Inde a vocation à commercer avec tout le monde.
Les questions, vous avez évoqué tout à l'heure le partenariat technologique, les questions stratégiques constituent aussi une autre dimension importante donc de ce déplacement. Hier a été annoncé donc l'achat de 114 avions Rafale en plus des 36 déjà acquis par l'Inde. C'est évidemment une formidable opportunité commerciale disons pour la France, mais aussi une occasion de réduire la dépendance de New Delhi vis-à-vis de Moscou, puisque la Russie reste le fournisseur traditionnel du sous-continent. Les deux tiers de l'armement indiens sont russes.
C'est ça, et nous, la France, pardon, n'est qu'à 30% à peu près de fournir, enfin, ne fournit à peu près que 30% des armes, du volume d'armes indien, oui.
Et est-ce que la façon dont l'Inde se conçoit en tant que puissance militaire est compatible avec les ambitions de la France concernant la région Indo-Pacifique?
Alors, je pense que, j'ai plutôt parlé justement de l'accompagnement diplomatique, c'est-à-dire que, on vit dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, les pays s'arment, il y a une course à l'armement général qui devient aussi un dérivatif de tout un tas de défenses, dépenses, pardon, bref. Mais au-delà de ça, il y a surtout ce que pourrait faire la France d'un point de vue diplomatique, c'est-à-dire que quand on ne condamne pas, comme je le disais, la guerre à laquelle je faisais référence en début de prise de propos, et très notamment la préemption sur l'eau, encore une fois, j'y reviens, mais 40% de la population mondiale dépend quand même de l'eau qu'il y a dans cette région, c'est pas une anecdote, bah là, en fait, je considère que la France peut, à risque d'être un peu normative, mais peut mettre en péril une sécurité régionale. Parce que du coup, l'Inde se sent toute puissante et quelle sera la prochaine étape ?
Et on terminera par cette question. Merci Charlotte Thomas, chercheuse associée au programme Asie de l'IRIS, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi toujours pluvieux. Sur les trois quarts nord du pays, la Charente-Maritime a rejoint trois autres départements au niveau maximum d'alerte aux inondations, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Quant aux températures, elles seront comprises entre 2 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.